La nuit, je dors pas. Au chômage depuis 97. Si en plus y a pas un peu de bruit dans la rue, je vais finir par me tirer une balle dans la rue. Je sais aussi apprécier le silence quand ma fille vient me rendre visite tous les dimanches et qu'elle me montre les photos de ses copines.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, c'est Jeudi Noir qui essaye de commencer malgré de nombreuses avanies et un José qui essaye de s'arracher les cheveux qu'il n'a pas encore rasé face à une platine qui est résistante. Et vous venez d'entendre, si vous y êtes arrivé, les Stratocaster et un morceau avec un titre incroyable puisque c'est l'incroyable découverte de ce jeune retraité va vous faire frémir d'azote.
Alors pourquoi ce titre, Michel?
Parce que, comme d'habitude, José, avec sa pertinence absolument légendaire dans tout le Paris bruisse, On n'a pas le temps, on est en retard, mais c'est un petit livre, donc un petit livre rouge et blanc, je tiens à signaler. Et donc c'est parce que on va vous parler, on va faire une émission sur l'actualité. Alors ça nous arrive quasiment jamais, donc on est un peu ému. Et on va vous parler ce soir des retraites à travers un livre, un petit livre. Ça aussi c'est pas toujours fréquent, que Jean-Mathias a lu attentivement, qu'il a corné, annoté, à moitié mâchonné. Un livre de Bernard Friot qui s'intitule « Prenons le pouvoir sur nos retraites », qui vient de sortir, je crois. Arrête de faire joujou, Jean-Mathias, avec les trucs. Il sait pas quoi faire de ses mains, ce garçon. Qui vient de sortir chez La Dispute. Et qui, évidemment, à moins que vous ne vous soyez enterré quelque part dans un endroit de Paris, ça fait allusion au problème actuel des retraites.
Ouais, alors bon, c'est le dernier. Alors petit livre, effectivement, tu l'as dit, de Bernard Friot. Il y en a eu des plus longs précédemment. Alors Bernard Friot, rapidement, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est un économiste qui est membre du Parti communiste français, qui est membre d'Attaque également.
On va parler d'un stalinien sur les ondes.
Alors c'est pas vraiment un stalinien. Non, ça on peut pas lui reprocher ça du tout. Il a enseigné très longtemps, à Nanterre, puis dans d'autres universités, et il a fondé, il y a déjà une bonne quinzaine d'années, ce qu'il appelle le réseau Salariat, qui en fait est une espèce de groupe de travail, de réflexion et groupe d'intervention militante aussi autour de la question du salaire et notamment de la question des retraites et en particulier du système par répartition, dont Bernard Friot est un des spécialistes. Alors, un de ses premiers livres qu'il a fait connaître, ça fait déjà plus de 20 ans qu'il travaille sur ce sujet-là, et un de ses premiers livres qu'il avait fait connaître s'appelle « Puissance du salariat », au pluriel, puissance. « Puissance du salariat », c'est un livre qui date de 1998 et qui a, posé les bases d'une réflexion assez hétérodoxe, je dirais, sur le système par répartition. Et depuis, en fait, Bernard Friot creuse ce sillon-là. Alors, il y a eu tout un tas de... toute une bibliographie. Il a publié beaucoup de choses depuis, toujours sur cette question-là, sur la question du salaire, du salariat en général, ou des retraites en particulier. Il a aussi évidemment un souci constant d'éducation, même pas d'éducation populaire, d'éducation militante, au sens où il intervient très régulièrement dans différentes organisations syndicales, mais aussi dans différents mouvements sociaux, mouvements politiques, avec toute une réflexion aussi sur le travail de transmission de l'analyse économique et de la recherche universitaire. Très intéressante. Enfin, bon, pour les militants syndicaux, associatifs ou politiques, c'est un nom qui est évidemment connu, hein, Bernard Friot, et ses interventions le sont aussi. Alors, dans ce petit livre-là, il a une originalité, ce petit livre-là, c'est qu'il est beaucoup plus court, ou nettement plus court que ses livres précédents. Et d'une certaine manière, il va nettement plus loin que d'habitude. C'est-à-dire qu'en fait, il est à la fois analytique. Il propose une... Qu'est-ce qu'on trouve en fait dans ce petit livre ? On trouve une analyse du système par répartition qui reprend en fait des conclusions et des analyses qu'il a déjà fait précédemment. Il y a une analyse politique, je dirais, en plus de cela, qui est en fait l'analyse de Bernard Friot à propos des échecs successifs à s'opposer aux réformes des retraites. Donc ça, c'est plus un diagnostic politique. Et puis, il y a un programme. Il y a un programme derrière, alors qui n'est pas nouveau non plus, parce que il en parle depuis déjà pas mal de temps, mais qui, là, effectivement, prend une forme assez radicale, je dirais. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir du système des retraites tel qu'il existe? Comment on peut l'élargir? Comment on peut le généraliser à l'ensemble des citoyens? Pour dire les choses. Donc il y a ces trois éléments-là sur un petit texte qui fait une centaine de pages, qui est rédigé de manière assez agréable et assez facile à lire sous la forme de dialogue fictif, avec différents interlocuteurs qui sont tous à chaque fois assez sceptiques sur les propos de Friot ou l'avenir du système des retraites et que Friot du coup met en scène pour essayer de développer ses arguments. Alors peut-être que du coup on peut faire on peut suivre un petit peu ce qui est un peu le plan du livre, je dirais, c'est-à-dire ces trois points qui vont alors. Après, moi, je cache pas, je le dis d'emblée, je trouve que le livre, en fait, est un peu de moins en moins convaincant au fur et à mesure qu'on le lit. Voilà. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, comme depuis longtemps chez Bernard Friot. Et en même temps, alors autant son diagnostic et la manière dont il interprète le système, la logique du système par répartition est intéressante, stimulante, parfois galvanisante, motivante, tout ce qu'on voudra, donc très intéressante. Son diagnostic politique, alors ça consiste à dire qu'au fond, je le donne aussi rapidement dans l'idée, c'est que si on perd depuis 30 ans systématiquement contre toutes les réformes des systèmes de retraite qui ont été proposés, c'est parce qu'en fait, on n'assume pas une espèce de conflit central sur, finalement, le sens même du système par répartition, qui est l'idée d'avoir un salaire déconnecté de toute production marchande. Voilà, et de tout emploi particulier et de toute contractualisation aussi de travail. C'est ça.
Hein, l'interview qui est donnée à Mediapart, je crois qu'il appelait ça un salaire à la personne.
Alors, j'ai expliqué ça, effectivement. Hein, c'est un salaire qui est lié à la personne et qui est lié à des qualifications personnelles et non plus à un emploi ou à un contrat, ni même à un contrat de travail, ce qui différencie par exemple des projets défendus par la CGT, de sécurité sociale professionnelle. Donc ce diagnostic-là, je le trouve bon, intéressant, mais à mon avis en partie un peu discutable. Et puis après, il y a l'idée qu'il essaie de développer, l'espèce de perspective de ce que serait un travailleur et un salaire communiste, d'après lui, dont les retraites et les pensions et salaires de la fonction publique représentent une espèce d'ébauche qui aurait vocation, d'après lui, à se généraliser. Avec l'idée que, le salaire devient non pas la rétribution d'une production, mais le préalable d'une production. Et que c'est le préalable, voilà, qui est non plus économique, du coup, mais qui est finalement une espèce de droit politique. Le salaire deviendrait, en tout cas dans le programme de Friot, un droit politique auquel, finalement, chaque personne majeure aurait droit comme préalable avant d'entrer dans une production, ce qui n'est pas la même chose qu'une allocation de ressources universelles.
J'allais poser la question, c'est quoi la différence ?
La différence, c'est que, justement, on est dans une logique de salariat, c'est-à-dire qu'effectivement, on est quelque chose, mais c'est là où c'est un peu confus et pas complètement convaincant, c'est-à-dire qu'on est quelque chose qui c'est un revenu qui est axé sur un travail. Sauf que c'est un travail qui n'est plus un travail marchand ou indexé à une production marchande, et qui est un travail indexé à la production d'une valeur de valeur commune et communiste dans un cadre, et qui là, j'avoue, devient un peu plus fumeuse. Selon moi.
Parce que quelle place dans ce dispositif prennent, par exemple, toutes les personnes qui, pour X raisons, ne peuvent pas travailler ?
Alors, c'est une autre question.
C'est une autre question, c'est plus tard, après. Okay.
Et c'est pas, à mon avis, c'est pas même le principal problème de cette question-là.
D'accord. C'est juste une question qui me venait, comme ça.
Mais on y viendra. Mais donc, sur les trois étapes, voilà. Et donc, autant, je trouve que son interprétation du système par répartition, je vais en parler maintenant, est vraiment intéressante et vraiment, stimulante. Autant, alors, le diagnostic politique, on peut en discuter, sur cet échec, effectivement, répété des oppositions aux différentes réformes de retraite. Et la perspective, bon. Pour tout dire, je suis pas certain, y compris d'avoir même compris complètement en fait qu'est-ce qu'il proposait en fait comme alternative. Hein, donc voilà. Mais l'ensemble, voilà, je conseille quand même le bouquin. Hein, ça se lit très vite, c'est très clair. Il y a pas de. Alors sur le peut-être on peut commencer par le début. Donc du coup, qu'est-ce que c'est un peu les idées forces qui défend alors là depuis longtemps sur le système par répartition. Son idée, c'est qu'en fait en 46, le système par répartition mis en place par Ambroise Croizat et en fait introduit une espèce de révolution économique, et qu'en fait le principal bouleversement économique de ces 70 dernières années, à savoir l'idée de salarier des gens qui n'ont pas d'obligation de tâche ou de production particulière. La pension de retraite n'est pas du salaire différé, dit-il, c'est-à-dire c'est pas de l'épargne, c'est pas du salaire épargné, c'est du salaire continué. C'est une idée qui est, alors là pour le coup, absolument inattaquable. C'est-à-dire que il n'y a aucun sens à penser les pensions de retraite comme du salaire qu'on aurait mis de côté ou qu'on aurait cotisé et qu'on toucherait après, tout simplement parce qu'on ne met pas de l'argent au frigidaire et que la valeur de ce qu'on cotise à un instant T en début de carrière ou au milieu de carrière n'a aucun sens par rapport à la valeur qu'on va toucher en tant que pensionné de retraite. Elle n'en a aucun. Et d'ailleurs, techniquement, c'est évidemment pas comme ça que fonctionne le système par répartition, qui en fait répartit entre salariés en activité et qui ne sont plus en activité, une partie de la masse salariale. Hein, la cotisation salariale, c'est ça, c'est l'écart qu'il y a entre le salaire net et le salaire brut. C'est une part de salaire qui n'est pas donc individualisée, qui n'arrive pas sur le compte en banque du salarié, mais qui est socialisée, c'est-à-dire qui est propriété de ce travailleur collectif à un instant T, qui est voilà, l'ensemble du salariat, et qui est répartie à un instant T entre salariés en activité donc, et salariés qui ne sont pas plus en activité. Et d'après Friot, c'est une idée qui est absolument révolutionnaire, parce que ça revient à salarier des gens qui n'ont pas d'obligation de production particulière, qui n'ont pas de rapport hiérarchique à un employeur, qui n'ont pas de rapport contractuel à une activité ou à la production d'une tâche particulière, qui ne sont pas liés à la production de quelque chose qui aurait une valeur marchande. C'est-à-dire que le retraité touche un salaire, hein, au sens capitaliste, pour ne rien faire de particulier. Et évidemment, d'après Friot, la révolution qui est derrière ça, c'est que en fait, le retraité ne fait jamais rien. C'est-à-dire qu'il fait tout un tas de choses, mais qui sont absolument hors de la sphère de la marchandise, c'est-à-dire que ce sont des choses qui ne sont pas facturables, qui ne sont pas facturées, voilà. Donc ça va être un engagement associatif, s'occuper de ses petits-enfants, faire autre chose, être dans un club de randonnée, d'échecs, un ciné-club, aller voir des amis, voyager, voilà. Tout cela, effectivement, c'est de l'activité, et c'est du travail, d'après Friot. Simplement, c'est un travail qui, évidemment, qui n'est plus marchand, c'est-à-dire que il y a de la production de quelque chose, de valeur, d'après Friot. Alors j'y reviendrai parce que, évidemment, c'est une valeur qui n'est pas sanctionnée par le marché ou par un prix ou par un tarif particulier. Mais il y a de la production, effectivement, et tous les retraités, d'après Friot, sont dans ce système de production-là et ils sont salariés pour ça. Ils n'ont pas de patron, ils n'ont pas d'employeur, ils n'ont pas d'obligation à la tâche. Et ils n'ont aucun engagement contractuel à faire quoi que ce soit. Et Friot invite à mesurer effectivement ce que ça a d'absolument révolutionnaire, en fait, ce système-là. Et c'est bel et bien le système dans lequel nous vivons. Hein, depuis 1946, en tout cas, ce système par répartition, il est pensé comme ça. Et dans les faits, il fonctionne financièrement de cette manière-là. Alors, ça change évidemment, c'est un changement considérable, hein, d'après Friot, et qu'on a tendance à oublier. Et d'après lui, toutes les réformes qui sont tentées depuis maintenant 30 ans, d'après lui, hein, parce que ça commence en 87, d'après lui, souvent on date à 93, hein, les réformes Balladur, avec l'allongement de la durée de cotisation pour les salariés du privé, et en fait, le vrai départ, d'après lui, c'est 87, c'est-à-dire c'est la désindexation des pensions de retraite qui n'est plus indexée sur les salaires, mais sur le salaire brut, mais sur le salaire net. Donc ça commence en 87, hein, les attaques contre justement le montant des pensions de retraite, d'après lui. Donc ça fait une bonne trentaine d'années qu'on est dans le jus. Et d'après lui, tous les efforts et toute la logique de ces réformes successives, elles reposent en fait sur une espèce de déni de ce que sont les pensions de retraite. C'est-à-dire que toutes les réformes successives visent au contraire à installer dans l'idée de tous que la retraite, c'est du salaire différé. C'est-à-dire que c'est une forme d'épargne.
Comme si on avait mis de côté.
Comme si on avait mis de côté et comme si c'était quelque chose qu'on toucherait après le travail. Il y a le travail, le vrai travail, et après, on ne travaille plus. Or, Friot pense que, on va y venir, hein, que c'est quelque chose d'absolument crucial, cette affaire-là. Les retraités travaillent, d'après Friot. Ils travaillent simplement, ils ne travaillent pas pour des patrons. Et ils ne travaillent pas pour valoriser du capital. Et c'est ça qui est absolument insupportable pour tous les gouvernements et pour tous les employeurs depuis que le système par répartition existe. Hein. Et donc, il y a quelque chose là de fondamental à comprendre sur le fonctionnement du système par répartition, c'est qu'on a effectivement quelque chose comme une espèce de prémisse de ce que serait un salaire communiste, c'est-à-dire un salaire qui ne serait pas lié à une production marchande et à un engagement contractuel vis-à-vis d'un employeur sur une tâche précise. Et donc, il faut bien mesurer ça et défendre, évidemment, envers et contre tout, ce principe de salaire continué par opposition à ce qui serait un salaire différé, qui est une fiction, hein, économique, sociale et politique, hein, parce qu'elle ne correspond pas du tout à ce qui fonctionne actuellement. Or, ce salaire fonctionne, ce salaire socialisé fonctionne très bien. D'après Friot. Alors, il compare ça, si tu veux, par exemple, au statut aussi de la fonction publique, qui date de la même époque. Pour le coup, ça, c'est Thorez, voilà, notre grand camarade Maurice Thorez, qui effectivement crée et contribue en tout cas à instaurer le statut de la fonction publique, et qui effectivement, de la même manière, hein, va lui, alors, comment dire, préciser en quelque sorte le fonctionnement de ce salaire continué. En le rattachant, alors non pas à un contrat de travail, disons que pour Friot, en quelque sorte, le retraité communiste à l'état pur, je dirais, c'est le fonctionnaire à la retraite. C'est le fonctionnaire à la retraite, c'est-à-dire que c'est celui qui va toucher son salaire, continué, hein, et qui va toucher un salaire qui n'est pas lié, alors qui est évidemment pas lié à une tâche particulière, mais qui n'est même pas lié à un contrat particulier avec un employeur, hein, qui est lié en fait à des qualifications et à des qualifications qui lui sont attachées à titre personnel. C'est la logique de corps, en fait, hein, la logique de corps d'État, c'est-à-dire que lorsqu'on est un fonctionnaire à la retraite, eh bien on touche une pension parce qu'on appartient à tel ou tel corps d'État. Et on y appartient en tant que personne, c'est-à-dire que c'est pas la tâche ou l'activité qu'on mène qui détermine le montant de la rémunération, c'est les qualifications pour lesquelles effectivement on est reconnu comme membre de ce corps, et ces qualifications elles sont personnelles. Alors ça l'amène à défendre, donc voilà, là on a vraiment quelque chose comme effectivement une espèce de salaire. Au fond, c'est communiste, c'est peut-être pas le terme qui convient, mais en fait, le salaire continué du fonctionnaire à la retraite est un pur droit politique. C'est un pur droit politique, c'est-à-dire qu'il est déterminé par, en quelque sorte, l'espèce de contrat social, par l'accord que la société exprime à l'égard, effectivement, de la fonction publique, et de la garantie que représentent des services publics d'État ou territoriaux, si vous voulez, et qui fixe du coup les rémunérations des gens qui accomplissent ces services-là, en quelque sorte, hein. Mais encore une fois, c'est pas lié à un service particulier ou à une tâche particulière. C'est-à-dire que le salaire, je sais pas, d'un professeur certifié, bah, effectivement, on reste professeur certifié même quand on est à la retraite. Voilà.
Jusqu'à la mort,
exactement. Cette espèce d'appartenance au corps, de la fonction, ou à professeur des écoles, ou un administrateur de tel. Voilà. Donc là, on a cette espèce de modèle-là. Et alors, bon, ça l'amène, avant qu'on s'arrête, là aussi, je trouve que c'est intéressant parce que ça l'amène du coup à relire en fait une espèce d'histoire du salariat, où il montre finalement, il distingue en gros schématiquement trois étapes, hein, dans l'histoire du salariat, autour de la question de l'emploi, justement. Hein. Et alors en fait, il dit au fond, alors au départ, l'idéal du capitaliste, c'est en fait le salaire qui est distribué avant même que s'installe l'idée d'un emploi, justement. Donc le pré-emploi. Et là, l'idéal du salaire capitaliste, c'est un salaire à la tâche. C'est-à-dire que tu es embauché pour telle mission ou pour telle production et on te paye à la livraison de telle mission ou de telle production et puis après, terminé. Voilà. Hein? Donc, on salarie uniquement à la tâche. C'est évidemment là, un idéal de précarité qui fait rêver tous les employeurs depuis toujours, etc. Donc là, on est dans une logique de pré-emploi. Et ce que Friot montre, c'est qu'effectivement, un des conquis du mouvement ouvrier, c'est d'avoir réussi à imposer une contractualisation de l'activité à la tâche, mais d'avoir surtout réussi à imposer dans le cadre du contrat un salaire à la qualification, justement. C'est-à-dire que en fait, ce que tu payes, c'est pas la tâche, c'est en fait la qualification que tu vas exercer sur la production de cette tâche ou pas. Et c'est ça qui définit en fait juridiquement le cadre d'un emploi, justement. Hein? Tu es employé, la différence entre un contrat de mission ou un salaire à la tâche et un emploi salarié, c'est qu'en fait, quand tu es recruté dans un contrat, alors tu peux avoir c'est tes qualifications qui sont mises en avant. Donc, c'est quelque chose qui sécurise bien évidemment davantage le salarié. Et puis, il y a la troisième étape. La troisième étape, c'est justement effectivement la retraite ou la fonction publique. C'est un cadre qui est après l'emploi, au-delà de l'emploi, nous dit Friot, hein, qui est du coup de ce point de vue-là comparable, dans la mesure où en fait, c'est pas des qualifications finalement qui sont rémunérées, c'est la personne. C'est la personne, hein, qui a ces qualifications qui se trouve rémunérée directement en tant que retraité ou en tant que fonctionnaire. Et là, on est dans quelque chose qui est déjà au-delà de l'emploi, hein, d'après Friot, parce que là, on n'est plus effectivement sur quelque chose qui est sanctionné ou déterminé avec un rapport avec une sphère marchande quelconque. Et évidemment, la logique qui est mise en place par le système de retraite par répartition, c'est bien celle-là, d'après Friot. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose, c'est une interprétation qui est tout à fait défendable, hein, de la logique du système par répartition. Et alors, le point, on va y venir tout à l'heure, mais là où Friot, lui, veut aller même encore plus loin que cela, d'une certaine manière, c'est qu'en fait, il souhaiterait déconnecter complètement, du coup, la rémunération salariée de toute activité marchande, en réalité. De toute activité marchande, et même, de tout contrat de travail. C'est l'idée de passer le salaire, de concevoir le salaire comme quelque chose qui serait une espèce de droit politique fondamental, comme le droit de vote, le droit de grève ou le droit de réunion, et qui serait une espèce de droit citoyen, en quelque sorte. Hein. Sur le modèle, encore une fois, hein, de la retraite par répartition ou, encore une fois, de la pension, du code des pensions de la fonction publique. Hein, quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Alors voilà pour l'analyse, si tu veux, ou pour l'interprétation qu'il propose du système par répartition de 46, hein, tel qu'il existe en France depuis 46. On va peut-être faire une pause
musicale, et puis ouais, on revient après. Bonsoir, c'est Radio Libertaire, 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit avec des incroyables problèmes techniques qui font transpirer José. Il n'en peut plus, là. Bientôt, il est comme le gars dans « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» C'était pas le jour pour arrêter le whisky. Et vous venez d'entendre la retraite de la retraite de la peur, paid for too long. Je connais absolument pas ce groupe. Bon, je pense que je vous ai non plus. Mais comme il a toujours des choix d'une pertinence extrême, c'est parce que l'émission est consacrée à un petit livre de Bernard Friot, dont Jean-Mathias nous exposait les principes de base dans la première partie de l'émission. Donc, petit livre de Bernard Friot qui s'intitule « Prenons le pouvoir sur nos retraites, la dispute », et où dans lequel il essaye de montrer que la retraite n'est pas un salaire différé, c'est pas le résultat d'une cotisation, de l'argent qu'on aurait mis de côté.
D'une épargne, mais
d'un salaire continué. Ce qui suppose que, d'une certaine manière, les retraités ne sont pas des gens qui arrêtent de travailler, mais ce sont des gens qui travaillent autrement, indépendamment de tout rapport de subordination patronale et de toute obligation marchande ou de toute obligation productive. Mais ils font d'autres choses qui sont très utiles à la société et aux gens autour desquels ils vivent. Et donc ça pose tout un tas de peut-être de problèmes intéressants, c'est-à-dire que justement Friot lui voudrait que pour en quelque sorte vraiment sortir du capitalisme et s'opposer de façon totale à un système qui serait une espèce d'ubérisation générale où on est payé qu'à la pièce finalement, que tout le monde ait droit en tant que citoyen à un salaire. Avec la présupposition que tout le monde est en quelque sorte utile.
Ouais.
Ce qui pose un petit souci de comment est-ce qu'on définit tout le monde peut-être dans la société dans laquelle on vit, parce qu'on a on peut avoir du mal à croire qu'un État n'instaure pas des filtres. Et sur qui s'exerceraient ces filtres? Enfin, je sais pas, je trouve que ça pose des questions.
Ah bah ça soulève des tas de questions, ça, t'as complètement raison. Mais alors après, si tu veux, avant même, disons, l'idée force vraiment qu'il y a derrière ça, c'est si tu veux, pour résumer les choses, c'est la manière dont il interprète le système de retraite par répartition. Et le fonctionnement de la sécurité sociale, aussi, parce que tu pourrais faire la même analyse sur l'assurance maladie et sur l'assurance chômage. Sur le principe, c'est le même fonctionnement. Hein. C'est la logique du système de répartition ou de financement par répartition. La manière dont il pense ça, donc comme salaire continué, comme salaire socialisé et continué. Voilà, il y a les deux aspects. Un, c'est du salaire socialisé, c'est-à-dire que c'est du salaire qui appartient collectivement à l'ensemble des salariés. Voilà, le financement des caisses de retraite, comme celui de l'assurance maladie, comme celui de l'assurance chômage, c'est du salaire qui appartient au salariat et qui est reversé au salariat en fonction des besoins de tel ou tel salarié. Hein, donc, si c'est le remboursement de tes frais médicaux, de tes périodes de chômage ou effectivement de ta retraite. Bon, donc ça, salaire socialisé, première chose. Hein, et salaire continué. Salaire continué parce que, encore une fois, ça n'a rien à voir avec une épargne ou de l'argent qui serait mis au frigo en attendant effectivement qu'on en ait besoin. Non, on ne met pas de l'argent au frigo. Hein, voilà, c'est une image qui reprend et elle est assez forte. La valeur de l'argent, en fait, elle n'a de sens qu'à l'instant T, c'est-à-dire au moment où il arrive effectivement dans ta pension et ce qui te permet effectivement de faire avec. Bon. Donc ça, c'est son interprétation. Et évidemment, quand tu comprends le système de répartition de cette manière-là, ça t'ouvre des perspectives sur le salariat en général et le travail en général. D'où le titre, si tu veux, du livre, hein, « Prenons le pouvoir sur nos retraites ». C'est qu'en fait, si tu prends les retraites comme ça, ça devient effectivement une espèce de formidable levier pour imaginer ce que pourrait être le travail en général. Parce que si c'est possible, et c'est possible... Hein, le financement des retraites, c'est plus de 300 milliards aujourd'hui, hein, si tu veux, de tous les régimes de retraite. Si c'est possible de payer des millions de gens de cette manière-là, hein, la question que pose Friot, c'est en fait, qu'est-ce qui nous empêche d'imaginer qu'on puisse payer tout le monde de cette manière-là? C'est ça, au fond, si tu veux, la force de son argument.
D'accord.
Hein? Et comment effectivement ce type de financement, hein, offre un modèle, et donc le type de financement et les justifications qui sont les siennes, c'est-à-dire l'idée de rémunérer des qualifications personnelles. Hein? C'est pour ça qu'il y a un lien avec ce qu'on disait avant la pause. Comment ça permet d'imaginer effectivement de rémunérer l'ensemble des travailleurs? Et cela, effectivement, dès leur majorité. Bon, alors, je vais laisser la question des difficultés derrière, mais j'en viens à l'aspect politique de ça. D'après lui, si tu veux, c'est quelque chose qui, comprendre ça, permettrait de sortir de la spirale d'échec à laquelle est confronté le mouvement social et le mouvement syndical en particulier depuis 30 ans sur cette question de réforme des retraites. C'est-à-dire qu'il faut arrêter, d'après Friot, de penser la retraite comme un repos bien mérité après la vie professionnelle. Faut arrêter de se battre en quelque sorte, faut arrêter de négocier, si tu veux, voilà, la durée de l'après-travail ou le montant des pensions, parce que, en fait, c'est pas ça l'enjeu. Le vrai enjeu, d'après Friot, c'est de déposséder la bourgeoisie de son pouvoir sur le travail et sur l'argent. C'est-à-dire, c'est de se réapproprier le travail. C'est pas de se réapproprier, c'est pas de négocier des miettes sur les quelques années après le travail. En fait, c'est de libérer le travail du pouvoir qu'exerce la bourgeoisie dessus en étant, voilà, en définissant ce qui a de la valeur ou pas. Et donc la manière dont le travail doit se faire. Alors, c'est un peu théorique, effectivement, formulé de cette manière-là, et en même temps, ça a des enjeux très concrets. C'est-à-dire qu'effectivement, Friot s'appuie sur l'activité productive d'un retraité pour l'opposer à ce qui est imposé aux salariés par un employeur. Hein? Et logiquement, ça a du sens de dire cela. D'une certaine manière, si je caricature un peu, on pourrait presque qu'on est déjà d'ores et déjà retraité. Et que, au fait, finalement, les activités qu'on a sont celles, finalement, qu'on décide de concéder ou qu'on veut bien, effectivement, accomplir dans le cadre de notre relation sur notre lieu de travail ou à notre employeur. On voit bien les limites de ça. C'est qu'évidemment, en fait, ça revient, d'une certaine manière, à décider de nier les contraintes qui nous sont imposées dans le cadre du travail, en fait, du travail salarié. Et en même temps, comme effectivement Friot le rappelle, vu que c'est possible et vu qu'il y a des millions de personnes qui vivent de cette manière-là, effectivement, pourquoi est-ce qu'effectivement on n'envisagerait pas de pousser cette logique-là et d'exiger, en fait, de généraliser cette logique à l'ensemble? À l'ensemble des salariés et à l'ensemble des personnes. C'est ça, au fond, sa manière de faire. Donc, ça a un côté, effectivement, extrêmement stimulant, si tu veux, dans sa manière de faire. Et le fait de dire, arrêtons de négocier des miettes après une dure vie de labeur. Non, ce qu'on veut, c'est travailler comme on veut. Voilà. Et pour ça, effectivement, il y a des moyens et le système de répartition nous offre des pistes et des embryons déjà très significatifs de la manière dont ça pourrait se faire.
Ah, je sais pas trop s'il veut réaliser l'utopie libérale du travailleur absolument libre de s'engager ou de ne pas s'engager à faire un travail ou pas, tu vois, du genre.
En ce sens-là, oui. Mais après, le problème.
Ça pourrait être rigolo de le voir comme ça. C'est du genre.
Tu peux le voir comme ça, dans la mesure où, enfin, c'est libre et libéré, effectivement, du marché.
Ce qui fait que, évidemment, mais ça, c'est comment dire, je pourrais dire l'idéal réalisé du capitalisme détruit le capitalisme. C'est juste.
Ouais.
Ça peut pas fonctionner.
Oui. Sauf que le capitalisme, il a besoin d'un marché pour valoriser, pour valoriser du capital. Ouais. Si tu veux.
Ouais, mais je parlais de son image du travailleur libre de contracter ou non. Ce qui est rarement le cas, en fait.
Mais oui, oui. C'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça l'enjeu, à mon avis. Alors, il y a une question autour du contrat. Parce que, notamment, il est en débat, on voit bien. Alors, le problème de ce livre, c'est qu'il est faussement simple. Parce qu'en fait, il est à la fois très didactique, pédagogique, tu vois, les dialogues, etc., les personnages fictifs, etc. Et en même temps, on sent bien que, en fait, il y a 20 ans de débat derrière et qui répond à tout un tas de personnes en même temps dans cette affaire-là. Et il est en débat, notamment, avec les gens de la CGT, et avec ce que défend la CGT actuellement, depuis déjà une vingtaine d'années, à savoir l'idée de sécurité sociale professionnelle. L'idée de la CGT, c'est au fond de rester dans la logique qui est celle de Croizat et du système de répartition, et d'avoir l'idée que finalement ce qu'il faut arriver à gagner, c'est l'idée d'une continuité de contrat et d'une continuité de cotisation tout au long de la vie professionnelle. C'est ça le modèle de la sécurité sociale professionnelle, c'est ça. Mais la CGT continue de, enfin les revendications de la CGT continuent de conditionner la pension de retraite à, en fait, une activité professionnelle contractuelle. Et en fait, Friot, il voudrait aller beaucoup plus loin que ça, lui, parce qu'en fait, il veut carrément faire sauter en fait le contrat, non pas pour revenir à quelque chose d'avant, non pas pour revenir à au salaire à la tâche, évidemment, ou au salaire, mais pour en fait généraliser quelque chose comme effectivement le salaire de la fonction publique ou le système par répartition. Et en fait, il trouve finalement que la CGT va pas assez loin parce que le fait de conditionner la pension de retraite à des contrats de travail et qui seraient lissés, qui seraient continus en fait sur l'ensemble de l'activité professionnelle, ça reste dans une logique de salaire en partie différée, c'est-à-dire que ça continue de lier ta pension à ce que t'as fait avant.
Et puis c'est très très problématique pour énormément de gens dans la société actuelle en plus.
Oui, alors après tu peux imaginer des solutions à ça. Je veux dire, t'as des solutions juridiques.
Le nombre de gens qui ont des carrières hachées, qui ont des carrières.
Justement, c'est précisément comme ça que les gens de la CGT, les économistes de la CGT, c'est ce problème-là qu'ils cherchent à résoudre justement. C'est essayer de maintenir, de créer une continuité. Au fond, ça revient à créer une espèce de droit, si tu veux, de droit nouveau. C'est une réponse juridique, au fond, aussi, qui propose. Mais ce que Friot reproche à ça, c'est qu'on reste dans une logique où, si tu veux, la retraite est un droit. Il faut d'abord en avoir chié pour y avoir droit, au fond. Et tant qu'on sera sur ce registre-là, d'après lui, en fait, on va perdre. On va perdre parce qu'on ne se battra pas, on n'assume pas, en quelque sorte, le projet fondamental qui est porté par la répartition, à savoir, en fait, il ne faut pas commencer par en chier pour être payé. Il faut d'abord être payé.
Peu idéaliste comme vision du rapport de force politique, du genre on a mal compris les choses. Alors, et donc on perd.
Le problème, ça c'est une objection, effectivement, ça je suis assez d'accord avec ce que tu dis là. C'est-à-dire qu'effectivement, en tout cas, il a l'air de faire comme si effectivement on perdait pour parce qu'on n'a pas bien compris en fait, ou parce que les revendications sont pas formulées de manière assez claire, etc. Effectivement, si tu commences à dire qu'il faut salarier tout le monde à partir de 18 ans, à supposer que ce soit possible, je sais même pas si c'est possible du point de vue y compris de ce qu'il propose, je suis pas sûr d'être convaincu par ce qu'il dit, mais à supposer que tu sois ça, il faudrait effectivement un sacré rapport de force pour l'imposer aux capitalistes ou à la bourgeoisie, ça. Et ça, évidemment, ça il en parle peu. Après, si tu veux, le débat...
Après, c'est pas son taf. À la limite, lui, son taf, c'est de donner des idées.
Mais... c'est pas son taf. Et l'argument est pas inintéressant non plus. Si tu veux, le côté... effectivement, comment tu veux... Y compris même si tu souscris pas, si tu veux, à son projet. Le fait de dire qu'on passe notre temps à négocier des miettes, ou à négocier, tu vois, 42 plutôt 43, 41 plutôt 44, ou 45, 64 plutôt que 67, c'est pas des détails, parce que derrière, Mais en même temps...
Ça reste des miettes.
La logique, si tu veux, en tout cas, la logique, effectivement, n'est jamais remise en question en tant que telle. Et alors, il y a un autre truc intéressant aussi, je ne sais pas s'il a raison non plus, c'est que par exemple, lui, il balaye assez vite la question de la capitalisation. Il dit, oui, effectivement, ça fait 30 ans qu'on dit que, en fait, BlackRock veille, les fonds de pension veillent, qui veulent mettre la main sur les financements du système de retraite. Et il dit, mais en fait, depuis 30 ans, peut-être qu'effectivement, ils veulent, mais en fait, ça reste complètement marginal. En fait. Donc d'après lui, c'est pas un enjeu. Je sais pas s'il a complètement raison, parce qu'il y a quand même des paquets de pays en dehors de la France où c'est même plus un enjeu, où c'est réglé depuis longtemps en fait, où c'est la capitalisation, point. Et t'as quand même une sacrée tendance, si tu veux, une sacrée demande en tout cas de la part de la finance internationale pour aller dans ce sens-là. Donc c'est vrai que parfois il est un peu désarmant parce que t'as l'impression qu'il vit dans une société où il y aurait pas de rapport de force, ou en tout cas c'est pas prioritaire pour lui. Effectivement, si t'as les idées claires, comme tu dis, si t'as les idées claires ou si t'as des revendications claires, finalement t'es voilà. Bon, cela dit, c'est pas complètement faux non plus. C'est-à-dire que plus t'as les idées claires et plus t'as des revendications précises et cohérente, et plus tu as des chances effectivement de mobiliser dessus.
Mieux tu peux définir tes buts, ça, mieux tu peux définir les moyens pour les obtenir.
Ça, c'est clair. Mais bon. Voilà. Donc, alors, mais du point de vue politique, en tout cas, on sent le débat, il se joue là-dessus. Alors il ne veut pas d'allocation d'existence, parce que l'allocation d'existence, il ne veut pas le dire comme ça. Mais finalement, est-ce que tu es si loin que ça? C'est pas sûr. Parce que si tu veux. Une allocation d'existence, c'est quoi? C'est un droit politique octroyé par l'État et garanti par l'État, avec un seuil minimum. Alors, la seule différence qu'il y aurait entre l'allocation d'existence et le salaire dont il parle, ça serait que lui, il tient mordicus à ce que ce salaire soit lié à des qualifications. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas dans une logique d'allocation qui serait identique pour tout le monde.
Ouais.
Alors, tu vois, du coup, l'enjeu des qualifications devient crucial. C'est-à-dire qu'évidemment, dès tes 18 ans, tu ne seras pas forcément rémunéré de la même... Si j'ai bien compris, hein.
C'est quoi, c'est le capet sous la mort.
Il y a quelque chose un peu comme ça. Ah bah oui, mais c'est une logique, c'est une espèce d'hyper fonction publique, en fait, ouais. son affaire. Alors, évidemment, en même temps, ça te remet un sacré enjeu sur les études, un sacré enjeu sur la qualification, un sacré enjeu sur le financement de l'éducation, parce qu'effectivement, ça détermine beaucoup de choses derrière. Tu vois, ouais. Donc, alors, c'est ça la différence, si tu veux. Donc, on n'est pas sur une espèce d'allocation minimum, voilà, que l'État donne généreusement, ouais. Voilà. Et puis
totalement après, égalitaire.
Non, c'est pas ça.
Non, d'accord.
Non, puisqu'il garde le principe d'un salaire à la qualification. Ouais. Donc, les qualifications, elles ne sont pas les mêmes pour tous. Donc, il y a une échelle salariale.
D'accord. Hein? Mais c'est pas, il réintroduit pas une forme de méritocratie
Si, d'une certaine manière, ou en tout cas une échelle de salaire. Enfin, si j'ai bien compris, hein. Après, voilà, il le dit pas explicitement, mais enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc c'est effectivement pas une allocation universelle. C'est pas non plus la sécurité sociale professionnelle de la CGT, parce qu'en fait, il veut déconnecter ça de toute forme de carrière et de toute forme de contrat. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'évidemment, il veut le déconnecter de toute forme de condition d'annuité. Donc, effectivement, à partir du moment où tu as 18 ans, eh ben, en fait, tu es salarié. Voilà. Et tu as un salaire préalable lié à tes qualifications en tant que personne et qui est un salaire voilà, incompressible, incessible. Et à partir de là, on peut commencer à produire de la valeur. Voilà, c'est ça la logique dans laquelle on est. Et donc, effectivement, ce qui va déjà dans le sens de ça, ben, c'est la retraite par répartition, c'est la fonction publique ou la logique de rémunération de la fonction publique. Hein. Et donc, si c'est possible pour des millions de personnes, il n'y a pas de raison, finalement, que ça ne le soit pas pour d'autres. Voilà. Alors, peut-être, on peut faire peut-être une deuxième, ouais. Deuxième pause.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa troisième, brève et dernière partie. Vous venez d'entendre Roudieux, et José ne parle pas batave, d'un morceau qui s'intitule Retraite, qui est aussi très récent, hein, 2022. Alors, on fait dans l'actu, mais à mort. Et ce soir, on vous présente un livre un petit livre de Bernard Friot, Prenons le pouvoir sur nos retraites. Et donc là, on était, c'est Jean-Mathias qui le présente, et on discutait un petit peu de, comment dire, du cadre dans lequel on pourrait concevoir une espèce de salaire, et pas d'allocation, de salaire universel, qui dépendrait, qui serait inaliénable en quelque sorte, qui serait vraiment lié à la personne et à ses qualifications, ce qui nous posait un petit souci de définition, c'est-à-dire quelles sont ces fameuses qualifications qui vont faire que Il y aura, j'imagine que ce serait encadré, parce que si les communistes ne voudraient pas que ce soit hors de tout cadre, qu'il y aurait des inégalités de salaire en fonction de ces qualifications variables. Et ce qui implique que ce serait assez, de ce point de vue-là, différent de l'allocation universelle, puisque l'allocation universelle serait une espèce de plancher égal pour tous, et ensuite ceux qui veulent rajouter quelque chose bossent pour rajouter quelque chose. Là, dans son idée, c'est complètement différent, mais ça implique un modèle social qui reste à définir, malgré tout, un modèle social et économique qui reste à définir, puisque de quelle qualification s'agit-il Et donc, voilà. Et,
si tu veux, il y a une vraie différence. Si tu veux, encore une fois, il cherche à se démarquer. Alors, avant tout, des partisans de l'allocation universelle, et aussi effectivement mais un peu moins parce qu'il est beaucoup plus proche des projets de sécurité sociale professionnelle qui au fond ne font que prolonger sans généraliser le système tel qu'il existe actuellement, voilà. Mais avec l'allocation universelle, c'est une vraie divergence, parce que en fait les partisans de l'allocation universelle raisonnent dans un cadre qui est celui du libéralisme.
Oui.
Alors que lui veut raisonner dans un cadre qui est celui du communisme. D'un marxisme hétérodoxe, mais dans un cadre communiste. C'est-à-dire qu'en fait, il veut supprimer l'aliénation du travail par le capital, et il veut supprimer l'économie marchande. Donc l'économie de marché, même, tout simplement, hein. Donc ce qui est pas rien, en fait, au passage, hein, parce que voilà, ça soulève un certain nombre de alors que c'est crucial pour lui, oui. Alors que les partisans de l'allocation universelle, pas du tout. Un partisan de l'allocation universelle, en fait, il nous dit il y a pas de raison effectivement de valoriser plus quelqu'un qui travaillerait que quelqu'un qui travaillerait pas ou qui aurait pas une activité productive, voilà. Et donc du coup c'est plus une espèce de je dirais de relativisme moral qui conduit effectivement à valoriser une espèce de rémunération universelle, plancher pour tous, sans prendre parti justement sur ce que serait une vie meilleure qu'une autre. Donc on est dans le cadre effectivement d'un raisonnement libéral, hein, mais tu prends des gens comme Van Paris ou des gens comme ça, et les partisans de la voilà. Et tu peux avoir évidemment le solidarisme, c'est une pensée qui est d'abord de droite, voilà, tu peux imaginer, tu peux avoir des justifications y compris religieuses à ça, de charité chrétienne, voilà. Donc c'est pas du tout le cadre dans lequel lui il s'inscrit, hein. C'est-à-dire qu'effectivement lui il est dans une logique de salariat. Alors le problème, si tu veux, c'est que t'es un peu sur un point de bascule, parce que il est dans une logique de salariat dans une société où le terme de salariat n'aurait finalement quasiment plus de sens en réalité. Voilà, oui. c'est ça la difficulté.
Tu parlais du fait que c'était en quelque sorte l'idéal du travailleur capitaliste complètement libre, qui peut contracter ou non, mais là parce que en gros, voilà, il a assez de d'autonomie pour pouvoir dire non à un employeur éventuel.
Alors effectivement, donc voilà, il y a cette difficulté là. Et en fait, le vrai problème, moi, je pense, qui se pose derrière ça, c'est que si tu veux, je suis pas sûr. Alors bon, c'est vite compliqué ces questions-là, mais je suis pas sûr que le cadre qu'il propose te permette de penser de manière vraiment cohérente ce que serait la création d'une valeur économique, en fait. Parce que si tu veux, on voit ce que c'est que la valeur économique dans une économie de marché. Là, c'est la valeur d'échange. Voilà, la valeur d'échange d'un produit, d'une marchandise, d'un service, ce qui vaut sur le marché, c'est défini par la loi de l'offre et de la demande, et elle est parfaitement relative. C'est-à-dire que elle dépend complètement effectivement de l'état de l'offre et de la demande à un moment donné. C'est comme ça qu'on fixe la valeur des choses. C'est comme ça que les prix se fixent à un moment donné, et qu'on peut déterminer, y compris du coup, le prix de la force de travail ou d'une activité productive, quoi. Alors ce qui pose là encore, effectivement, évidemment que c'est pas complètement cohérent cette affaire-là, puisque t'as toutes les activités, la santé, l'éducation, etc., qui ne peuvent pas être évaluées de cette manière-là. Tout simplement, ça n'a pas de sens. Donc toutes les activités non marchandes, et il y en a un paquet effectivement, ne peuvent pas être évaluées de manière marchande. Et c'est bien pour ça effectivement que la marchandisation de l'éducation, de la santé, etc., sont des catastrophes, parce qu'en fait elle bloque en fait tout simplement ce type de production-là qui sont indispensables. Bon, donc ok, c'est pas cohérent. Ok, c'est dangereux. Ok, il faut lutter ça, et on lutte contre ça en permanence et au quotidien. Voilà. Bon. Alors maintenant, comment est-ce que tu peux définir de la valeur économique sans
sans avoir du tout de marché. Alors, il y a des manières de faire. Effectivement, tu peux dire, en fait, c'est la collectivité qui décide. L'État, en l'occurrence, ou un État démocratique, ou un État ouvrier et paysan, ou la République des Soviets, ou la Fédération, ou la Confédération. C'est ça, effectivement. Donc, c'est la collectivité qui va déterminer la valeur sociale, collective, de ce qui est produit. Alors, c'est pas aberrant, du tout. Enfin, c'est le principe, d'une économie communiste, y compris communiste libertaire, y compris communiste anarchisante, Donc, après la question effectivement de comment on s'y prend pour définir la valeur d'une activité, et qui va trancher, qui va fixer, les proportions, comment on les définir. Mais lui, c'est clairement dans ce cadre-là, en fait. Il est dans un cadre révolutionnaire, tout simplement, dans un cadre révolutionnaire. Et anticapitaliste, quoi. C'est quand même pas une petite question. C'est pas une petite question de savoir comment on s'y prend, si tu veux, pour définir des valeurs économiques ou même la valeur de bien commun, je dirais, si tu veux, parce qu'évidemment, il est aussi dans cette démarche-là. Retrouver du coup la valeur d'usage d'une activité, la valeur d'usage d'une production et la valeur d'usage, si possible, collective de ça. Et bien évidemment que c'est fondamental. Après, si tu veux, est-ce que tu peux penser toute une économie et toute une échelle de rémunération salariale sur ce type de détermination de la valeur économique? C'est un côté, c'est pas incohérent, si tu veux. Mais t'es quand même t'es un niveau d'abstraction, et puis il y a des précédents historiques, en fait, si tu veux, tu vois, de ça, tu vois, une économie d'État, une économie dans laquelle il y a aucune autonomie, de la sphère marchande, ça conduit aussi à des catastrophes, on sait. Donc c'est l'indépendance de l'économie à l'égard du politique, évidemment, c'est extrêmement dangereux quand ça bouffe le politique. Maintenant, quand le politique bouffe complètement l'économie, ça va pas donner des résultats forcément mieux. Et alors lui, pour le coup, mais il se fout éperdument de ce questionnement-là. Il n'a pas l'ombre d'un doute, si tu veux, sur le fait qu'une économie socialisée, gérée en fonction uniquement d'une espèce de valorisation des biens communs, permet de rémunérer chacun à partir de 18 ans en fonction des qualifications qu'il aura acquises à ce moment-là. Bon, alors après, ça pose aussi tout un tas d'autres questions. Je dis, effectivement, est-ce que tu penses une évolution salariale, est-ce que tu penses une carrière dans une perspective comme celle-là, comment tu responsabilises des gens par rapport à leur engagement dans le etc.
Perdre des qualifications,
est-ce que tu peux les perdre, les acquérir, ça pose tout un tas d'autres questions. Mais
si t'as pas envie d'être qualifié,
Donc voilà, c'est un peu le on est dans une espèce de monde assez c'est une espèce de Frioland, je dirais, tu vois, il y a un côté un peu comme ça, c'est passionnant, c'est très stimulant. Alors là, pour le coup, effectivement,
est-ce que c'est à Frioland?
On va savoir.
Il fallait que je fasse la blague, je suis navré.
En tout cas, on est évidemment dans la période. De toute façon, c'est des réflexions, des questions qui doivent être discutées en AG, en heure d'info syndicale, entre potes, en manif ou ailleurs. Ce qui est un peu trompeur dans le bouquin, c'est qu'il est faussement simple. Lisez-le. Parce qu'il est il est tout à fait lisible, mais au fond il est très dense en réalité, par les questions et les débats qu'il suppose et qu'il ouvre. Donc c'est un peu ça, à la fois l'intérêt et la difficulté, peut-être de ce dernier opuscule de Bernard Friot.
Donc c'était Jeudi Noir. On vous présentait un livre de Bernard Friot, Prenons le pouvoir sur nos retraites, édité chez La Dispute très récemment. Et là, vous allez pouvoir entendre un petit morceau de Black Flag, Retired at 21, donc retraite à 21 ans. Un peu plus vieux que chez Friot.
Un peu réac, quoi.
Mais bon, Black Flag, quoi. Je sais pas si c'était encore Rollins, si c'était déjà Rollins qui chantait, 85, si. Voilà, donc on vous laisse là-dessus et on se retrouve normalement pour le quatrième jeudi.
Et l'émission est toujours archivée et disponible hein, sur...
Oui, sur gurdulu.org.
Jeudi noir.
Jeudi noir. Voilà.
Gurdulu.org. Scrapbook.